Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Barbara Gomes, conseillère de Paris PCF, porte-parole de Fabien Roussel. Bonsoir.
Bonsoir.
Barbara Gomes, le Parti communiste n'avait pas présenté de candidat à l'élection présidentielle depuis 15 ans. Lors des deux précédentes présidentielles, vous aviez décidé de soutenir Jean-Luc Mélenchon. Pour quelle raison avez-vous choisi cette candidature autonome en 2022?
Parce que le Parti communiste a considéré qu'il y avait des valeurs qui sont fortes dans le parti à apporter, des valeurs qu'on n'entendait plus assez, des voix aussi que l'on entend représenter, qui malheureusement ont été mises trop de côté à force d'essayer de réfléchir à des personnes pouvant porter des candidatures communes. On a eu ce sentiment, qui est un sentiment partagé par la population, que on avait peut-être un petit peu oublié le fond. Et donc la candidature de Fabien Roussel, c'est une candidature qui vient à la reconquête de la gauche, à la reconquête des classes populaires qui ont été bien trop souvent effectivement oubliées dans l'ensemble de ces réflexions. Vraiment une démarche d'aller vers les gens et de leur montrer que en fait la politique, c'est pas seulement essayer de choisir quelqu'un pour avoir un poste de pouvoir, mais c'est surtout et avant tout vraiment essayer de faire valoir les besoins des gens dans leur réalité quotidienne.
Donc si je vous comprends bien, l'objectif de Fabien Roussel, ça n'est pas d'accéder à tout prix au second tour. L'idée, c'est de faire entendre des idées qui ont peu d'écho dans le débat public, notamment les questions sociales.
Exactement. Alors, sur les questions sociales, évidemment, c'est une priorité absolue. Je dirais pas que Fabien Roussel veut à tout prix, évidemment pas, accéder au second tour. Il veut tout simplement se donner les moyens d'y accéder, mais pas pour des questions de personnel, pas parce que lui a envie dans son CV, dans son ambition personnelle, d'accéder à un poste de pouvoir, mais tout simplement parce que avoir Fabien Roussel qui accède au second tour, c'est la certitude d'avoir quelqu'un qui entend représenter la voix de celles et ceux qu'on n'entend plus assez jusqu'à la présidence de la République.
Alors face à la baisse du pouvoir d'achat, est-ce qu'il faudrait augmenter le SMIC, les retraites, les salaires des fonctionnaires? Je pense en particulier aux salariés qui ont été en première ou en deuxième ligne pendant toute la crise sanitaire.
Bien évidemment. D'ailleurs, vous le savez, c'est la préoccupation première des Français. S'il y a bien un avantage qu'il faut, alors je peux même pas parler d'avantage, en tout cas une leçon que l'on a tirée de cette crise, c'est que les gens en ont marre de bosser comme des malades pour gagner 3 francs 6 sous. Donc c'est plus l'aberration en fait de travailler dans des conditions de travail dégradées et pour des salaires de misère, c'est quelque chose qui que cette crise en fait a mis en avant. Et évidemment sur qui a reposé l'essentiel de l'effort qui a été fait durant cette crise, ce sont sur des gens qui sont essentiels et qui pourtant n'ont pas des salaires à hauteur de leur utilité. Et c'est la raison pour laquelle il faut effectivement augmenter les salaires, et en particulier des personnes qui sont indispensables pour faire tourner ce pays, que ce soit les agents et les agents publics qui ont œuvré pour faire en sorte que le pays continue à tourner en dépit de la situation sanitaire. Ce sont les employés de ménage, ce sont les caissières et les caissiers dans les supermarchés, ce sont évidemment des soignantes et des soignants, des catégories de la population qui sont encore aujourd'hui beaucoup plus trop maîtrisées dans leur rémunération, de manière générale d'ailleurs, par les pouvoirs publics.
Alors Barbara Gomes, vous êtes très sensible à un sujet comme l'ubérisation du travail. On va en parler dans le cadre de la campagne présidentielle, mais vous êtes aussi une élue locale à Paris et vous êtes en train de mettre en place une maison des coursiers au 70 boulevard Barbès. L'idée, c'est de donner un lieu de repos entre deux courses à ces coursiers, car c'est terrible de les voir attendre dans le froid pendant des heures, pendant les heures creuses à Paris.
Alors c'est même plus qu'un lieu de repos. ce serait un lieu pour se retrouver, un lieu de convivialité, mais un lieu aussi d'accès aux droits. Parce qu'il faut avoir en tête que les plateformes de travail, telles que Uber Eats, Deliveroo, même Frishti d'ailleurs, sont des modèles économiques qui vont volontairement recourir à des contrats de faux travailleurs indépendants pour ne pas respecter le droit du travail, pour pas avoir la responsabilité qui est la leur lorsqu'ils vivent dans le fire. Donc on respecte pas effectivement le salaire minimum, on respecte pas la limitation sur la durée du travail, sur les accidents du travail, le chômage, le licenciement, etc. Donc on a des entreprises qui considèrent qu'elles sont au-dessus des lois, et ceci au détriment des travailleurs les plus précaires. Et dans ces travailleurs précaires, on a des gens qui sont extrêmement isolés, puisqu'il n'y a pas de collectif, il n'y a pas de lieu où ils peuvent se retrouver dans ces entreprises-là. Donc ils sont isolés et sans droit, il y a beaucoup de travailleurs sans papier notamment. Et donc ce lieu, c'est un lieu pour répondre à leurs besoins, pour organiser des permanences syndicales, des permanences d'accès aux droits aussi, à la régularisation, par exemple pour les états, à la régularisation de leurs papiers. C'est aussi, à terme, on va vouloir organiser des sessions de meilleure formation sur la route, la sécurité routière. On va vouloir organiser plein de partenariats. C'est vraiment un lieu de rencontre pour que ces personnes retrouvent en droit et en dignité. Et d'ailleurs, elle est mise en place, ça y est, donc on aura une inauguration officielle très bientôt, mais elle a déjà commencé à démarrer effectivement dans le 18e.
Alors, l'ubérisation du travail, c'est un des sujets numéro un de cette élection présidentielle. On en parlait déjà en 2017. Peu de réponses politiques ont été apportées à l'ubérisation qui concerne de plus en plus de métiers. Vous avez parlé des livreurs, mais je crois que de nombreux métiers sont concernés. Ces plateformes sont totalement automatisées. Il y a aussi l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il faut réglementer ces plateformes? Est-ce que la France a la possibilité de réglementer ce travail ubérisé aujourd'hui, ou est-ce qu'on est totalement démuni puisque ce sont des multinationales?
Alors, il y a deux séries d'éléments de réponse que je pourrais apporter. La première, c'est sur le fonctionnement de ces plateformes. Effectivement, la magie, pour reprendre un terme qui a fait pas mal de buzz ces derniers temps, la magie du fonctionnement de ces plateformes, c'est qu'elles ont automatisé le pouvoir patronal. Donc elles transforment en langage informatique ce qui sont juste des ordres de la direction. Et donc ce pouvoir de direction s'applique automatiquement de façon extrêmement déshumanisée. Donc ça, c'est la première chose effectivement à dire. Il y a très peu d'intelligence artificielle. Bon, c'est très opaque leur façon de fonctionner, mais c'est un fonctionnement finalement assez classique, de l'algorithme assez classique, très peu de machine learning, j'ai envie de dire. L'algorithme n'est pas auto-apprenant en fait, hein. On fait vraiment juste de la traduction de pouvoir patronal. Il y a une commande qui doit être faite, il faut que le salaire va être calculé de cette façon-là. Si le salarié, enfin le salarié, n'ailleurs pas du tout, le travailleur se comporte de cette façon-là, il va y avoir quelle réaction de l'algorithme. Donc en fait, tout est contrôlé, l'algorithme n'est pas auto-apprenant, il ne sait pas ce qu'il veut. Donc là-dessus, c'est important de préciser, parce que les plateformes vont essayer de se défausser aussi de leurs responsabilités en disant finalement on décide de rien, alors qu'au contraire, l'algorithme permet de contrôler tout de façon encore plus intense que avec un management humain classique. Ça, c'est la première chose. Et sur la possibilité d'agir sur ces questions-là, bien sûr qu'on peut agir. D'ailleurs, le gouvernement essaie, mais il n'essaie pas d'agir en faveur des travailleurs des plateformes. À chaque fois qu'on a une décision de justice qui a requalifié en contrat de travail ces faux contrats de travailleurs indépendants, parce que du point de vue du droit, il n'y a pas d'ambiguïté, ce sont des salariés en vérité, ces personnes-là. Eh bien, le gouvernement nous a pondu des lois, si on passait l'expression, qui avaient vocation, je cite, à sécuriser les plateformes. C'est-à-dire à les préserver de l'application du droit du travail, à légitimer leurs pratiques illégales. Donc ça passe pas évidemment, parce que c'est pour le coup, on a un système normatif encore assez solide, mais on voit qu'il y a une tentative du gouvernement français de protéger les plateformes contre finalement le droit qui est applicable à toutes et tous. Et on a une preuve que c'est possible d'intervenir avec l'Espagne. L'Espagne, la ministre communiste d'ailleurs du travail, Yolanda Díaz, a mis pour le coup, elle s'est appliquée là une loi, elle a mis en place, élaboré une loi qui est applicable depuis le mois d'août, qui dispose que les travailleurs des plateformes de livraison sont des salariés. Donc c'est possible de faire ça. C'est juste une question de volonté politique.
Barbara Gomes à Amiens, par exemple, des livreurs ont créé Bifast, qui est leur propre plateforme pour échapper au carcan des multinationales. Cela pose finalement la question des consommateurs. Nous sommes tous concernés. C'est à nous aussi de changer nos habitudes. Nous devons choisir des applications responsables.
Bien sûr qu'il faut le faire. Après, évidemment, c'est pas suffisant. J'ai tendance à croire que le consommateur, évidemment, a une responsabilité, mais qu'on peut pas reporter exclusivement la responsabilité sur le consommateur. Il faut s'attaquer au système. Des initiatives telles que vous avez mentionnées, il en existe partout. Alors, je crois que la première en France, ça doit être à Bordeaux, avec les coursiers bordelais, qui est une coopérative qui utilise d'ailleurs le logiciel de Copcycle. Copcycle, qui est l'association porteuse de la maison des coursiers. Donc, vous voyez qu'il y a des liens, hein, dans ces tentatives de dépasser le modèle de la plateforme capitaliste de travail. Ces modèles-là de coopératives qui respectent le droit du travail, qui respectent l'environnement avec des mobilités douces, qui respectent aussi l'idée de la coopérative gérée démocratiquement, ces dispositifs sont à encourager par les consommateurs, mais aussi par les pouvoirs publics. Et c'est, je pense, tout l'enjeu en fait futur pour aider à dépasser ce modèle toxique, nocif des plateformes capitalistes de travail, c'est qu'il faut aider aussi à l'émergence de modèles alternatifs sains, qui vont permettre de faire le dernier kilomètre avec des mobilités douces, qui vont permettre de faire des livraisons même des villes grâce à des entreprises locales, à s'assurer que les personnes qui vont être embauchées dans ces nouveaux emplois et justement des emplois stables avec un vrai contrat de travail. Donc il y a une réflexion plus générale sur la politique de la ville, sur le modèle de société qu'on veut promouvoir au niveau local, qui doit permettre aussi de faire émerger des modèles alternatifs sains.
Barbara Gomes, il y a un phénomène nouveau à Paris, les livraisons en 10 minutes qui se multiplient grâce à de nouvelles applications. Est-ce qu'il y a des risques d'accidents plus importants pour les livreurs, mais aussi pour les riverains en raison de ce système de livraison en 10 minutes, sans parler aussi du stress au travail? Est-ce qu'il faut réglementer ces livraisons en 10 minutes?
Non, mais en fait, c'est pour le coup, on est vraiment dans tout ce qu'il ne faut pas faire. On comprend qu'aujourd'hui, qui a besoin de se faire livrer ses courses en 10 minutes, déjà? Qui a besoin qu'en 10 minutes, sa commande lui soit livrée? Ça n'a aucun sens. C'est à contre-temps de tout ce dont on a besoin. On a besoin aujourd'hui de reprendre le temps, de faire des choses, de respecter les gens qui travaillent. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse développer comme ça des entreprises qui finalement un petit peu soufflent sur les instincts un petit peu nocifs que les individus peuvent avoir dans cette société. Donc déjà, je trouve que c'est évidemment problématique. Et oui, il faudrait intervenir pour veiller à ce que ces personnes les personnes qui vont devoir livrer, à défaut que le marché n'existe pas, que ça n'intéresse personne, si ce marché prend, il va falloir vérifier que l'inspection du travail fasse plein une attention particulière sur ces nouvelles entreprises pour que les travailleurs, on vérifie que les travailleurs sont bien respectés, que leur santé psychologique, leur santé physique aussi soit pas mise en danger, que effectivement ils soient rémunérés tous les droits qu'ils puissent avoir au niveau du droit du travail, sur le temps de travail, les heures supplémentaires, le salaire minimum qui est vraiment juste. Vraiment le minimum à donner à ces personnes-là, le respect des conventions collectives, j'espère qu'ils vont s'organiser aussi syndicalement. Donc il y a plein de choses sur lesquelles il va falloir être très attentif, mais effectivement, je trouve que ce modèle, de toute façon, est un modèle qu'il ne faut vraiment pas encourager.
Barbara Gomes, lors du dernier Conseil de Paris, vous avez évoqué les entreprises qui recourent au contrat d'apprentissage. Même si ce système est bon pour les jeunes qui ont besoin d'une première expérience, est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet d'aubaine pour les entreprises qui reçoivent des aides de l'État, mais ne permettent pas à ces jeunes d'avoir un emploi pérenne ?
C'est exactement le problème que j'ai voulu pointer au Conseil de Paris. Évidemment, vous savez, je suis enseignante par ailleurs, j'enseigne à l'université, donc je sais à quel point les étudiants en master en particulier aiment les contrats d'apprentissage. D'ailleurs, là, mon expérience avec ces masters-là, mais je sais que dans tout, dans au-delà de l'université, dans tous les secteurs et à tous les niveaux, les contrats d'apprentissage sont perçus comme des belles opportunités d'apprendre directement avec voilà entre la pratique et le théorique, et que c'est vraiment quelque chose qui est très recherché par les étudiants et les étudiants. Ça, c'est une chose, et je veux pas que mon discours justement soit mal interprété de ce point de vue-là. En revanche, effectivement, ça pose la question de la transformation aussi des missions qui sont confiées à ces travailleurs en emploi pérenne. À partir de quand on va pouvoir considérer enfin que employer des jeunes, c'est pas forcément sur des emplois précaires, pas forcément sur des emplois subventionnés, et qu'en fait le but du tâche sociale, il faut un petit peu qu'il s'arrête pour la jeunesse. Surtout qu'on a une période de crise, la jeunesse a beaucoup souffert de cette situation-là. Il faut enfin qu'on porte un nouveau regard sur cette jeunesse et qu'on leur offre la possibilité de s'émanciper.
Barbara Gomez, Fabien Roussel a déclaré qu'on était passé d'un débat présidentiel à un débat pestilentiel, allusion évidemment aux propos d'Éric Zemmour qui ne fait aucune différence entre islam et islamisme, qui compare la délinquance à un djihad. Il y a Éric Zemmour, mais il y a aussi tous les commentaires des chroniqueurs des chaînes info autour des thèmes qu'il impose dans le débat public.
C'est un vrai problème, et je pense, vous savez, j'ai pas du tout de regard négatif sur les médias de manière générale. J'ai beaucoup de respect pour le travail des journalistes, mais il faut quand même que les chaînes d'information, et spécialement les chaînes d'information continue, se remettent un petit peu en question et observent un petit peu ce qu'elles sont en train de porter. Peut-être malgré elle, par ailleurs. Mais en tout cas, il faut qu'elles réfléchissent sur les effets de leurs choix éditoriaux. On ne peut pas décider, en dépit d'ailleurs de ce que sont vraiment les préoccupations des Français, on ne peut pas décider de faire tourner toutes ces chaînes d'information autour d'un sujet qui n'est pas bon pour la République et pour la démocratie. On ne peut pas faire tourner en permanence des sujets sur des questions identitaires qui, en réalité, n'intéressent pas plus que ça les Français. Ce qui intéresse les Français, c'est la question effectivement du pouvoir d'achat, la question salariale, la question aussi de pouvoir évoluer tranquillement dans sa ville, d'avoir accès à des services publics de qualité, à une santé de qualité. Nous, on voudrait qu'il y ait enfin des vrais débats. Ce sont les premières élections présidentielles pour notre candidat Fabien Roussel. Et Fabien Roussel, il a envie justement que ces élections soient le moment de débattre des questions des Français. C'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça qu'il a décidé de porter sa candidature à l'élection présidentielle. Donc on veut parler d'énergie, on veut parler de santé, de services publics. Et ça, les Français, ils veulent l'entendre. Il faut que cette élection, elle soit le moment de réfléchir ensemble au chemin de société, à chemin qu'on veut prendre, à quelle société on a envie de construire tous ensemble. Et le problème, c'est qu'effectivement, en parlant en permanence, d'ailleurs d'une personne en particulier, de ses obsessions et de ses névroses en boucle, ça crée l'illusion qu'il n'y a pas d'autres alternatives que ces débats-là, que finalement les Français sont très centrés sur eux-mêmes. Et je pense qu'il faut vraiment briser ce cercle vicieux pour permettre aux Françaises et aux Français d'enfin débattre des sujets qui les intéressent.
Merci Barbara Gomez. Je rappelle que vous êtes conseillère de Paris PCF et porte-parole de Fabien Roussel. Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.